Paris-Bercy, il est 17h, en temps universel 19h ici à Paris, le journal.
Pierre Boudias.
Brice Clotaire Oligui Nguema, élu président du Gabon, le président de transition largement vainqueur du scrutin qui se déroulait hier. Nous serons à Libreville dès le début de ce journal. Il était porté disparu depuis l'attaque de son convoi le 23 mars dans la bande de Gaza. Un ambulancier palestinien depuis aux mains d'Israël annonce ce dimanche le Croissant Rouge. Il aurait été emmené de force après l'assaut qui avait tué 14 de ses collègues. La France à la veille d'un effort financier considérable. Ce sont les mots du ministre de l'économie. Il estime que le pays devra faire 40 à 50 milliards d'euros d'économies d'ici l'année prochaine. Seule solution pour tenir les objectifs de réduction du déficit public. Et puis c'est le succès surprise de la semaine aux Antilles. Le film Zion du Guadeloupéen Nelson Foy affole les chiffres de fréquentation à Road Movie dans les banlieues déshéritées de Pointe-à-Pitre, tournée en créole. Il n'y a donc pas eu de surprise au Gabon. Il ne manque plus que la confirmation par la Cour constitutionnelle. Mais Brice Clotaire Oligui Nguema va bien rester au moins 7 années supplémentaires au palais du bord de mer de Libreville. Le chef des militaires du CTRI, qui a renversé Ali Bongo le 30 août 2023, a remporté l'élection présidentielle de samedi, 20 mois plus tard. François Mazet, vous êtes en direct de la capitale gabonaise. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors le suspense était mince. Le chef de la transition remporte une victoire écrasante.
90,35% des voix selon le ministère de l'Intérieur qui a communiqué tout à l'heure les résultats globaux partiels avec 3 heures de retard sur ce qui était attendu, le temps d'une dernière vérification a promis le ministre Herman Imongo, le temps aussi que le chef de la transition rejoigne le QG de son mouvement, le Rassemblement des bâtisseurs, pour suivre l'annonce parmi ses supporters. Alors à l'exception de la diaspora, Brice Clotaire Oligui Nguema dépasse les 93% des voix partout au Gabon, ne laissant donc que des miettes à ses adversaires. Alain-Claude Bilibinzé est donné deuxième avec à peine plus de 3%. Les 6 autres candidats ne dépassent pas 1%. Ils ont maintenant 8 jours pour former des recours devant la Cour constitutionnelle. Dernier point, la participation revue à la baisse par le ministère, 70,4% contre 87 estimé hier soir du fait que les bureaux témoins sont dans les grandes villes, a justifié le ministre Herman Imongo.
François Mazet en direct de Libreville, merci. Et pour en savoir plus sur le profil du nouveau président gabonais, son portrait complet est à retrouver sur le site RFI.fr. Au moins 58 morts en seulement 48 heures dans le Darfour soudanais, c'est le bilan de l'attaque de la ville d'Oum Kadada par les paramilitaires des forces de soutien rapide, des chiffres communiqués par des groupes pro-démocratie locaux. Ils évoquent des exécutions sommaires de civils après la conquête de cette localité auparavant aux mains de l'armée régulière. Le gouverneur du Darfour Nord évoque, lui, 450 personnes tuées dans les environs de la ville d'El Fasher, et ce, depuis vendredi. En Palestine, c'est l'un des derniers hôpitaux de la bande de Gaza encore en fonctionnement qui a été gravement endommagé. L'établissement Al-Ali, situé dans le nord de Gazaville, a été visé par une frappe israélienne ce dimanche après un appel à évacuer. L'armée assure avoir ciblé un centre de commandement du Hamas, accusation rejetée par le mouvement palestinien qui dénonce un crime sauvage. Londres appelle de son côté Israël à cesser, je cite, ces attaques déplorables contre les hôpitaux. Dans ce contexte, le Croissant Rouge palestinien annonce avoir retrouvé la trace d'un ambulancier disparu depuis le 23 mars dernier. Il avait été porté disparu après l'attaque de son convoi de secouristes dans la bande de Gaza. Les corps de 14 de ses collègues et d'un employé de l'ONU avaient ensuite été retrouvés une semaine plus tard dans une fosse commune, toujours dans l'enclave palestinienne. Selon le Croissant Rouge, qui n'apporte pas plus de détails, ce survivant serait aujourd'hui aux mains des Israéliens. Un soulagement teinté d'inquiétude à Ramallah, comme nous l'explique notre correspondante Amira Souidem.
Son nom était scandé à chacune des prises de parole du Croissant Rouge palestinien ces derniers jours. Assad el-Nassasra est vivant. Le secouriste palestinien, père de 6 enfants, a été enlevé de force alors qu'il accomplissait ses missions humanitaires, dit le Croissant Rouge dans un message posté sur les réseaux sociaux. Assad el-Nassasra faisait partie des secouristes du Croissant Rouge et de la défense civile de Gaza, ciblée par l'armée israélienne le dimanche 23 mars dernier. Les deux équipes étaient en route vers une zone bombardée en banlieue de Rafah quand elles ont été prises sous le feu nourri de l'armée israélienne. Celle-ci avait affirmé les avoir ciblées parce que roulant de façon jugée suspecte, tout feu éteint. Une version ensuite démentie par la découverte d'une vidéo tournée par l'un des secouristes palestiniens avant sa mort. Le Croissant Rouge palestinien a demandé aujourd'hui la libération immédiate d'Assad el-Nassasra. Au-delà d'un confrère, c'est aussi un témoin clé du drame, encore vivant, que l'organisation espère retrouver. L'armée israélienne qui avait accusé sans apporter de preuves à ce stade que 6 des secouristes tués étaient affiliés au Hamas avait annoncé lancer une enquête approfondie. Amira Suilem, Ramallah, RFI.
À la file, il est 20h05 à Soumy, la ville du nord-est de l'Ukraine où une frappe russe a fait au moins 34 morts ce matin. Le bombardement a touché le centre de la ville où une partie des habitants se rendait à l'église à l'occasion du dimanche des Rameaux. Plus de 100 personnes ont également été blessées. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky appelle ses alliés à faire pression sur Moscou pour que la Russie accepte un cessez-le-feu inconditionnel. L'émissaire américain pour l'Ukraine, Keith Kellogg, dénonce lui une frappe inacceptable qui dépasse toutes les limites de la décence. Les États-Unis qui menacent de frapper fort si les discussions sur le nucléaire iranien n'aboutissent pas. Ce sont les mots du ministre de la Défense, Peter Hegseth, alors que la délégation américaine et ses homologues iraniens se sont rencontrés hier à Oman pour évoquer un potentiel accord. Il existe d'autres options que les négociations pour empêcher l'Iran d'obtenir la bombe nucléaire, estime le responsable américain. Il reconnaît cependant que les discussions hier ont été très constructives. Les États-Unis, exhortés par la Chine à annuler totalement leur hausse des droits de douane, appel lancé par le ministère chinois du Commerce à la veille d'une tournée du président Xi Jinping en Asie du Sud-Est. Il doit tenter de renforcer ses liens avec les États de la région face aux taxes de 145% désormais imposées aux produits chinois par les États-Unis. Dans son communiqué, Pékin reconnaît cependant un petit pas de la Maison-Blanche après l'exemption des smartphones et ordinateurs décidée vendredi dernier. Il est 19h06 ici à Paris et c'est un effort considérable qui attend les Français selon le ministre de l'Économie. La France devrait en effet réaliser entre 40 et 50 milliards d'euros d'économies supplémentaires pour boucler son budget 2026. C'est ce qu'a annoncé Éric Lombard, interrogé ce dimanche par BFM. La France traverse en effet une crise budgétaire marquée par un déficit public bien supérieur aux prévisions. Agnieszka Kumor.
C'est une équation difficile, mais le ministre de l'économie, Éric Lombard, veut maintenir le cap, celui de ramener le déficit public à 4,6% du PIB en 2026.
Je maintiens le 4,6% pour 2026, qui va demander un effort supplémentaire de 40 milliards d'euros. Nous dépensons en dépenses publiques 57% de la richesse nationale. Donc, en réalité, nous dépensons beaucoup, et ce que nous pensons, c'est qu'on peut dépenser moins et dépenser mieux.
Hors de question d'augmenter les impôts, promet le locataire de Bercy. Éric Lombard n'exclut pas, en revanche, de pérenniser la contribution des hauts patrimoines, qui fixe un taux minimal d'imposition à 20% et qui était jusque-là annoncé comme temporaire. Le ministre compte aussi sur la croissance économique pour augmenter les recettes. Une hausse du PIB de 0,7% est prévue en 2025, mais l'Observatoire français des conjonctures économiques a déjà abaissé cette prévision à 0,5% en raison de l'incertitude politique française et du péril d'un conflit commercial mondial durable.
Et puis un mot de cinéma avec la sortie très remarquée de Zion, premier long métrage du Guadeloupéen Nelson Foy. Le film a bénéficié d'une sortie anticipée aux Antilles, a pulvérisé les records de fréquentation des salles locales. Isabelle Chenu.
Zion est une plongée dans l'envers de la carte postale guadeloupéenne. Pas de plage ou de cocotiers, mais des cités délabrées sous le soleil, où la misère, la violence, le désœuvrement et les trafics en tout genre constituent le lot quotidien. Le réalisateur Nelson Foy emprunte au code des films d'action pour ce premier long métrage rythmé où l'on suit sur sa moto un petit dealer de quartier qui un beau matin trouve un bébé dans un cabas devant sa porte. Course-poursuite, scène nocturne éclairée à la lumière des flammes, masque de carnaval, Zion est un film à l'esthétique recherchée et à la portée presque documentaire. Les problèmes qui gangrènent les Antilles servent de toile de fond, coupure d'eau, violence conjugale, père absent. La jeunesse s'y est retrouvée, ce qui explique l'engouement du public et des taux records de fréquentation des salles lors de sa sortie anticipée dans l'archipel fin mars. Le film a transformé l'essai lors de sa sortie dans l'Hexagone mercredi dernier, se situant dans les meilleures fréquentations de cette première semaine.
Isabelle Chenu. Et puis des records, il continue d'en accumuler. Le cycliste Mathieu Van Der Poel, vainqueur cet après-midi de la mythique course de Paris-Roubaix, troisième succès consécutif pour le Néerlandais qui a devancé de plus d'une minute son éternel rival Tadej Pogacar. Presque 17h10 en temps universel, c'est la fin de ce journal. Bonne suite des programmes à l'écoute de RFI.